La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Exode 20, verset 17. Exode 20, verset 17. Je lirai en français courant. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Amen.
Bon. J'espère que tout ce qui bien commence doit bien finir. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous finissons la semaine de prière. Pour moi, ça a été une joie, une opportunité que je remercie. Je suis vraiment reconnaissant à l'église d'Amarie pour cette invitation, parce que ça m'a fait du bien à moi-même, le premier. Bon, on va faire un petit résumé de ce qu'on a vu toute cette semaine. On a eu des expériments, on a eu des illustrations sur place, que je crois que les jeunes, ils ont bien aimé. On a quand même essayé d'expliquer comment est-ce que Dieu peut faire des miracles pour restaurer la vie de ceux qui ont fait des choses mauvaises dans leur passé. La semaine dernière, je vous expliquais que dans Exode 20, on trouve un certificat de mariage et où nous trouvons les 10 vœux que Dieu a prononcés pour se marier, pour s'engager avec son peuple. Et le contexte nous explique ça dans Exode 19. Après, je vous ai fait une petite classe de hébreu classique. Bon, on oublie ça. Mais le plus important, c'est que les 10 paroles, parce que les Hébreux, même, ils disent que Exode 20 contient les 10 paroles. Ils n'utilisent pas jamais le mot commandement. Mais nous avons vu que là, en Exode 20, on a 10 merveilleuses promesses. Et la première promesse que Dieu nous avait fait, que Dieu nous a fait, et que Dieu te fait encore, c'est de t'aider à t'aider à rester fidèle. Il a promis d'être fidèle à toi, mais il va faire tout ce qu'il est possible pour lui de t'aider à rester fidèle à lui. C'est-à-dire, il va faire n'importe quoi pour prendre soin de toi. Alors, nous n'aurons jamais besoin de chercher aucun autre Dieu, parce qu'avec lui, on a assez, suffisant. Alors, Dieu nous dit, je te promets, tu n'auras jamais aucun autre Dieu devant moi. Parce que je m'engage à le faire. Alors, je vais faire tout ce qui est possible pour rester dans ces compromis. Et tu resteras toujours fidèle à moi. La deuxième promesse qu'on trouve dans Exode 20, c'est, vous vous rappelez, mais on va faire une petite paraphrase, une petite mise à jour du texte. Bon, le texte classique dit, tu ne te feras point d'image. D'accord? Pas des photos, rien de tout. Mais c'est une promesse, parce que Dieu a dit, je ne m'engage pas seulement avec toi, mais je prends le compromis aussi pareillement de rester à tes côtés toujours, au point que tu n'auras jamais besoin de faire une pareillement, de rester à tes côtés toujours, au point que tu n'auras jamais besoin de faire une photo de moi. Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une photo si on a la vraie personne à nos côtés? Alors, ce jour-là, je vous avais expliqué, imaginez-vous que j'ai une très belle portrait de Susanna, de ma femme, chez moi, et quand je rentre de travail, de bureau, je dis, ah, tu si es belle, Susanna, mais ma femme est à mes côtés, et je... Bon, c'est drôle, mais c'est ça. Alors, si j'ai la vraie Susanna à mes côtés, pourquoi est-ce que je dois parler à une photo? Alors, Dieu m'a dit, Dieu nous a promis, je te promets, que tu n'auras jamais besoin de te faire une photo de moi, parce que je vais rester toujours à tes côtés. La troisième promesse, c'est la promesse que Dieu nous a dit. Tu ne prendras jamais, la promesse que Dieu nous a dit. Tu ne prendras jamais mon nom en vain. Oui, bien sûr, maudire c'est une chose, insulter c'est une autre chose, c'est clair. Mais si on entend, si on comprend que s'agit d'une promesse, c'est vraiment différent. Parce que je vous avais expliqué ce jour-là qu'on utilise le nom des personnes pour les appeler, pour attirer leur attention, n'est-ce pas? Alors, chaque fois que j'appelle quelqu'un, si je commence à prononcer, à énoncer de différents prénoms, différentes personnes vont répondre, n'est-ce pas? Mais si je prononce, si je dis le nom de quelqu'un et cette personne ne répond pas, alors j'utilise son nom en vain. Et Dieu m'a dit, je te promets que tu n'utiliserais jamais mon nom en vain. C'est-à-dire, je serai toujours là, mais pas seulement à tes côtés, parce qu'il y a des gens qui restent toujours côté à côté avec quelqu'un d'autre, mais ils ne se parlent pas. Il a dit le contraire. Je ne serai pas seulement avec toi. Oui, je serai là, mais en plus, je serai là toujours attentive. Je répondrai chaque fois que tu prononces mon nom, chaque fois que tu m'appelles, je vais te répondre. Je suis toujours en attente de tes prières. Alors, jamais, je te promets, jamais tu utiliseras mon nom en vain. Parce que je répondrai toujours. C'est une promesse. La quatrième promesse, c'est facile. Bien sûr, on fait le résumé. Dieu a promis de s'engager avec nous, de devenir notre mari, notre époux, de rester à nos côtés toujours. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de photos. Pas seulement ça, parce qu'on peut rester, mais être en silence. Mais il veut s'engager dans un dialogue quotidien, tous les jours, prière, tu vois. En plus, il a dit, mais je veux promouvoir la vie familiale. Alors, je te promets que chaque semaine, je veux mettre de côté une journée spéciale pour rester en famille. De ma part, je te promets que je vais le faire tous les jours. L'unique condition, c'est que tu te rappelles. Et c'est pour ça que la quatrième promesse commence avec « Rappelle-toi, 12 jours de sabbat. » Je serai toujours là. J'attends toute la famille parce que je vais partager cette journée avec toi. Je veux que cette journée devienne une fête de joie, de bonheur. Que tout le monde puisse être heureux. Alors, pas seulement toi, aussi tes employés, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de servants, mais il y a des employés. Mais il y a aussi des certains qui nous visitent. S'il y a quelqu'un étranger chez nous, tu peux lui dire qu'il est bienvenu. Même les voisins, même les animaux des compagnies, tout le monde est bienvenu. C'est une journée de fête. Et ce jour-là, on a réfléchi, il faut que les adventistes commencent à repenser, que nous repensons qu'est-ce que nous faisons le sabbat. Bref. Mais c'est une promesse. Dieu est toujours là. C'est à nous de nous rappeler de ce rendez-vous. En plus, c'est parti, c'est l'engagement entre Dieu et nous. Mais Dieu veut y aller plus loin encore. Parce qu'il dit, je vais prendre pareillement souci de la famille. Parce que nous venons de fonder une famille, ok? Mais j'aimerais bien que notre famille puisse se relationner socialement avec les autres d'une façon effective, d'une façon efficace, et que chacun de nous puisse devenir un témoin vivant. Alors, je te promets que désormais, tu deviendras quelqu'un honorable, parce que tu seras capable de honorer tes parents. On a vu ces jours-là qu'honorer les parents n'est pas seulement de leur dire « Voilà, je t'aime bien, mon père, bisous, voilà, tu es déjà âgé, je te rentre dans la maison de retraite. » Non, parce qu'il y a certains qui sont déjà bien chez nous, mais quand les enfants sortent dehors, ils font n'importe quoi. Mais tout le monde commence à juger quelle éducation ils ont reçue. Alors, chaque fois que je fais tort, chaque fois que je me trompe, chaque fois que je fais quelque chose qui ne convient, je déshonore mes parents. Et c'est Dieu qui s'est engagé avec moi personnellement en disant, « Pedro, je te promets que si tu m'acceptes, tu acceptes toutes les autres quatre premières promesses, je m'engage avec toi de t'aider à devenir quelqu'un honorable. Et chaque fois que tu fais quelque chose dans ta vie, tout le monde pourra voir que tu es quelqu'un de spécial. En plus, si nous acceptons ces promesses, Dieu nous donne une deuxième promesse encore dans cette promesse-là. Parce qu'il dit, je suis le premier intéressé en te voir, en honorant tes parents. Parce que de cette façon, si tu vraiment m'acceptes et tu comprends que je peux t'aider à te conduire dans la vie correctement, je te promets en plus que je vais te prolonger la vie dans cette ère. Tu sais pourquoi? Parce que tu deviendras un témoin vivant. Et j'ai besoin de témoins vivants sur cette terre. Alors je suis le premier intéressé à te prolonger la vie. Parce que de cette façon, tu deviendras un phare pour plusieurs ans. Et tu ne pourras voir quel est le fruit de m'accepter en tant que Dieu. Alors je te promets, désormais, tu seras capable d'honorer tes parents. Tu honoreras tes parents. C'est incroyable. En plus, après nous avons dit, mais comment est-ce qu'on peut honorer nos parents? Écoutez, Dieu dit, il faut qu'on organise la vie sur cette terre, d'accord? Parce que je m'engage avec tout le monde, pas seulement avec les adventistes. D'abord, il faut que tu te rappelles que je suis le créateur de tout l'univers, de la terre, et de tout ce qu'il y a dans la terre, de tout ce que la terre contient. Tout l'argent et tout l'or m'appartient. Et toute vie m'appartient. Alors je te promets que désormais, tu n'auras jamais besoin de tuer. Waouh! Mais nous ne tuons pas. Oh oui. Parce que Jésus a dit, ce qui dit, qui maudit à son frère, il est déjà culpable devant le Sanhédrin, devant le juge. Parce que c'est comme s'il avait tué quelqu'un. Alors, ne tuez point, c'est plus que le fait physique réel de tuer quelqu'un. C'est vraiment plus profond, parce que Jésus a dû le réexpliquer encore au sermon de la montagne. Alors, Dieu nous a dit, écoute, je comprends que parfois tu te sentiras menacé, en danger, mais ce n'est pas à toi de te défendre. Ce n'est pas à toi de décider qui doit rester vivant et qui doit mourir. Et ce n'est pas à toi de quitter la vie des personnes. Je t'ai dit avant, je suis ton époux. Je suis quelqu'un qui va rester toujours avec toi. Dans la troisième promesse, dit que je suis un Dieu jaloux. Vous vous rappelez ce que vous avez été pendant la semaine? Et jaloux pas dans les sens humains. Mais c'est Dieu qui dit, je suis jaloux dans les sens, je suis avec ma fiancée. Chacun de nous. Il se promène dans la rue quand quelqu'un arrive et commence à nous dire des choses qui ne conviennent pas. C'est Dieu qui dit, attends, derrière moi, qu'est-ce qu'il y a avec toi? C'est lui qui nous défend. Et c'est pour ça que Dieu, après, nous dit encore, c'est pas à toi de te défendre. C'est pas à toi parce que peut-être tu peux arriver à tuer quelqu'un sans vouloir. Tu ne tueras point, jamais, je te promets, tu n'arriveras jamais à le faire, parce que c'est à moi de te défendre. Je promets de devenir ton garde du corps personnel. Comment? Bodyguard, oui, mais ça sonne en anglais. Garde du corps, merci. Dieu a promis de devenir notre garde du corps personnel, tu ne tueras point, c'est à moi. En plus, il est le propriétaire, le créateur de toute vie. Et c'est à lui de décider qui doit continuer vivant ou pas. En plus, ces jours, petit résumé, nous avons vu que dans les moments de l'Exode, c'est le contexte, le peuple d'Israël n'a rien dû faire pour se délivrer de l'armée égyptienne. Ça a été Dieu qui l'a fait personnellement. Pareillement, il a fait avec la ville de Jéricho. Ils ont fait des petites balades, on peut dire, autour du mur. Mais le peuple d'Israël n'a rien dû faire. Et Dieu avait promis, je voyerai des petites plagues, des choses pour tuer les autres, pour éclaircir le chemin. Je serai toujours avec toi, mais nous sommes vraiment têtus. Nous restons toujours, on doit faire un coup de main à Dieu. Mais Dieu nous a dit, si tu vraiment me fais confiance, que je suis vraiment capable de te défendre, tu n'auras jamais besoin de blesser personne. En plus, il a dit, nous venons de garantir l'existence de la vie sur cette terre, sur cette planète, sur le monde, ok? Mais la vie doit s'organiser. Et la vie, la société, s'organise avec une cellule basique qu'on appelle la famille. Et Dieu dit, d'accord, la première promesse est de la préservation de la vie, de toute vie. Mais maintenant qu'on a la préservation de la vie garantie, il faut organiser cette vie. Alors la septième promesse, je te promets que tu auras toujours une famille heureuse. Tu auras toujours un mariage heureux. Je te promets que si tu m'acceptes chez toi, les expériences, les émotions que tu vivras chez toi vont combler ta vie, au point que tu n'auras jamais besoin de tromper ta femme ni ton époux. Je te promets que tu vas rester toujours fidèle, parce que ça sera la vraie source de bonheur chez toi. Je te promets, tu ne l'adultéreras jamais, point. C'est une promesse. En plus, Dieu continue, il dit encore, voilà, je t'ai promis de honorer tes parents. Pour honorer tes parents, il faut que tu te conduises bien dans la vie. Alors d'abord, respecter la vie de tout le monde, ok? Ensuite, il faut respecter les foyers des autres. Mais pas seulement le respecter, je te promets que tu auras un foyer heureuse, c'est heureux, plein de bonheur, d'accord? Mais une fois que nous avons la vie sur la terre, suivez-moi, c'est parce que c'est vraiment important ça, c'est parce que, plus qu'important, intéressant. Nous avons la terre en tant que monde, planète, remplie de vie. Dieu a organisé cette vie dans des petits foyers, des petites familles. Et ça, c'est la base de la société n'importe où, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Maintenant que nous avons garanti la survivance de la vie et l'organisation de la société dans des familles, il faut que ces familles se communiquent les unes avec les autres, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la convivialité familiale et parmi les familles. Il faut que tout le monde puisse coexister. Alors Dieu dit, voilà, je comprends, mais dans le moment qu'il y a plusieurs cellules familiales, il faut que tout le monde commence à se relationner. Il y a toujours des distorsions dans la communication. Bon, la communication, ça c'est mon spécialité. Mais il est vrai. Et Dieu reconnaît que ça nous posera des problèmes. Parce qu'il y a toujours des envies, des gens qui sont jaloux, des problèmes, des mauvaises compréhensions. Merci. Et Dieu dit, écoute, je vais fournir tout ce que tu as besoin d'eux. Tu vas rester vivant. C'est à moi de te garder vivant. En plus, c'est à moi, je te promets, de garder ton foyer comme une place de bonheur. Mais je te promets en plus, chaque fois que tu te relationnes avec les autres, tu le feras honnêtement. Tu n'auras jamais besoin de mentir. Bien sûr, c'est un commandement apparemment dans la première couche, mais c'est une promesse. Nous avons vu hier que mentir, c'est quelque chose que fait du mal, fait tort. Et Dieu nous a dit, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a besoin, vous avez besoin de mentir, mais si tu restes fidèle à la vérité, je serai toujours capable de te défendre. Et en plus, Je te promets que si tu suives mes conseils, tu diras toujours la vérité parce que tu n'auras jamais rien à cacher. Alors, est-ce qu'on a des choses à cacher dans notre vie? Si on a des choses à cacher dans notre vie, ça veut dire que nous nous sommes méfiés de Dieu. Mais si nous faisons vraiment confiance à Dieu, il n'y a rien à cacher. Transparence. Dieu nous a dit, vous deviendrez transparent. Vous n'allez rien à cacher. Mais il faut que tu me fais confiance. Combien de fois nous avons peur de dire la vérité? Parce que je ne sais pas comment les autres vont comprendre. Dieu nous dit, laisse tomber, tu dis la vérité, parce que c'est à moi de juger. C'est à moi de mettre en place. Et si ça, finalement, te pose des problèmes, ne t'inquiète pas, je viens de te promettre que je vais te défendre. Tu n'auras jamais besoin de tuer. Est-ce que nous faisons vraiment confiance en Dieu ou pas? Hier, nous avons vu pareillement des autres promesses. Bon. Mais j'aimerais bien, parce que le temps déjà coule, ça c'est le résumé. La dernière promesse que nous venons de lire, c'est Exode, on la trouve dans Exode 20, 17. Qu'est-ce que dit? Bref, la version plus courte, que dit? Qu'est-ce que dit? Tu ne convoiteras point. Bien sûr, nous parle de la femme, de la maison. Aujourd'hui, il nous dira de la PlayStation, de la moto, je ne sais pas. Tu ne convoiteras point à aucune chose. Je ne sais pas si vous avez vraiment vu la différence entre ces promesses et les autres promesses. Les autres promesses sont des choses qu'on peut voir. Parce que honorer quelqu'un, comment est-ce qu'on peut honorer quelqu'un? Il faut qu'une troisième personne devienne un témoin de qu'est-ce qu'on fait. Sinon, comment est-ce qu'on peut déshonorer ou honorer à nos parents? Vous me suivez? Alors, si j'agisse d'une façon, quelqu'un d'autre doit voir, regarder et juger si j'ai fait du bien ou j'ai fait du mal. Tuer. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On peut voir si quelqu'un est vivant ou mort. Je crois que vous êtes capable de deviner si quelqu'un est mort ou vivant. C'est vraiment visible, ça. Et quelqu'un peut regarder si une personne agresse ou pas à quelqu'un d'autre. Ce sont toujours des choses visibles, n'est-ce pas? Vous me suivez? D'accord? Pareillement avec le mariage. Dans le mariage, si quelqu'un trompe sa femme ou son époux, et pour l'instant personne ne connaît, je vous dis, et le jour va arriver que quelqu'un va trouver. Alors, ce sont des choses visibles, parce qu'au moins la personne avec qui nous avons trompé notre époux ou femme, elle ou lui connaît qu'est-ce qu'on a fait. Il y a toujours, on parle toujours des actions visibles. D'accord? Et voler, bien sûr. Vous pensez que personne vous avoue volé au magasin, mais il y a toujours la petite caméra que vous enregistrez. C'est-à-dire, on parle toujours des actions visibles. Mentir, dire des mensonges. Pareillement, parce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre, une troisième personne, pour lui raconter une mensonge. Alors, ce sont toujours des choses extérieures qu'on peut voir, mesurer. Vous comprenez? Mais la dixième promesse, c'est quelque chose vraiment spécial. Parce que dans la dixième promesse, j'aime bien cette promesse. Parce que Dieu nous dit d'autrefois, de notre façon, écoute, je te promets plus encore. Parce que je sais qu'il y a un petit coin là ou là que personne ne peut voir. Que personne ne connaît, sauf toi-même. Ce que tu penses et ce que tu ressens. C'est quelque chose vraiment intime, intérieur. Combien de fois vous avez des sentiments que vous ne pouvez pas exprimer et vous ne trouvez pas les mots. Mais Dieu vous dit, je connais qu'est-ce que tu ressens. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit. Même si tu ne connais pas comment est-ce que tu peux exprimer ça, je le connais. Et Dieu te promet, même ces petits coins que personne ne peut tirer, je te promets, prendre soin de ça aussi. Tu deviendras une personne si heureuse qu'avec tout ça que tu as chez toi, tu n'auras jamais besoin, ni l'envie, ni idée, ni ombre, de convoiter aucune autre chose. Parce que je vais combler ta vie. C'est ça que Dieu t'a promis et que Dieu te promet encore. Vous voyez, il y a plusieurs promesses dans la Bible. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, nous trouvons que l'être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme. Seul l'esprit de cet homme, lui, le sait. De même, nul ne peut connaître ce qui est dans Dieu, si n'est-ce l'esprit de Dieu. Dans ce texte, Paul nous dit que qui peut connaître ce qu'il y a dans Dieu, sauf l'esprit de Dieu. Pareillement, c'est un exemple. Personne ne peut connaître qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de n'importe qui, sauf cette personne. Et c'est ces petites parcelles, ces petits endroits réservés, vraiment privés, que Dieu dit, même ça, si tu me le rends, je ferai de le mieux pour prendre soin de ça. Tu deviendras vraiment heureux, même dans l'intime de ta vie. Tu auras un bonheur que tu ne seras capable d'exprimer, mais va rester là. Dans Jérémie 17:10 dit, « Moi, l'Éternel, moi, je sens le cœur, je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. » Dieu nous donne même des émotions, des sentiments que nous ne pouvons pas expliquer. Même ça. Psaume 139, verset 4. « Viens avant qu'un mot vienne sous mes lèvres, l'Éternel, tu sais déjà tout ce que je veux dire. » Avant que je commence à prononcer n'importe quel mot, Dieu le connaît déjà en avance. Dieu connaît vraiment ce coin de mon corps, dans mon esprit. Personne, même ma femme, Susanna, elle ne le connaît pas. Mais Dieu, oui, il le connaît. Et Dieu dit, même ces petits coins réservés, c'est à moi, si tu veux. Exode 27, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni sa moto, ni sa PlayStation, ni sa voiture, ni sa télé, ni... On peut mettre à jour ça, n'est-ce pas? Dieu vous promet que vous n'aurez jamais besoin des autres choses. Et l'unique façon de le faire, c'est de vous faciliter, de vous donner des choses que vous remplissez intérieurement. Dans la pédagogie, vous connaissez qu'il y a un principe. S'il y a un petit... Aujourd'hui, on a des bougies ici allumées. Oh, c'est dangereux. Ben, imaginez-vous que vous voyez un petit enfant avec un briquet. C'est briquet, oui. Chez vous, que joue avec un briquet sous le canapé. Waouh! C'est dangereux ça, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ça, vous avez tous les droits d'enlever le briquet tout d'un coup. Mais qu'est-ce qui va arriver chez ces enfants? Il va pleurer, il va se gêner, n'est-ce pas? Alors, pédagogiquement, la meilleure façon de retirer ces briquets parmi les mains de l'enfant, vous savez quelle est la façon? De faciliter quelque autre chose qui l'attire plus encore l'attention. Alors, si vous lui présentez un jouet, quelque chose qu'il aime bien, waouh, il va laisser tomber le briquet, il va se focaliser sur cette autre chose. N'est-ce pas? Alors, une fois qu'il est vraiment focalisé sur ça, vous enlevez les briquets et les dangers et passez. Et c'est ça que Dieu te dit. Je vais te donner des choses que tu n'imagines point. Tu n'es pas du tout capable d'imaginer toutes les choses que j'ai préparées pour toi. Alors tu vas oublier les choses des autres. Parce que tout ça que tu auras va te combler, va te remplir intérieurement. Tu n'auras jamais besoin de convoiter. C'est ça que Dieu nous promet. C'est incroyable. Même dans les mariages, les femmes, écoutez, c'est pas parce que Susanna est là avec nous aujourd'hui, parce que j'ai parlé toute la semaine de Susanna. Il y a des jours qu'elle a été avec nous et des autres que non. Mais chaque fois que je regarde à ma femme, à Susanna, dans ses yeux, je vois une mer d'émotions, de souvenirs, d'expériences, d'amour, des choses qu'on a vécues ensemble, que je ne trouverai jamais chez quelqu'un d'autre. L'apparence extérieure, oui, ça va, mais ça passe. Le plus important, c'est le contenu. Je n'ai aucune envie de chercher quelqu'un d'autre, parce que je ne trouverai jamais ce que je trouve chez Susanna. Et c'est ça que Dieu me dit. Tu ne convoiteras jamais aucune autre chose, aucune autre personne. Parce que si tu suives mes conseils, je vais te donner tout ce que tu as besoin. C'est vraiment incroyable ce que Dieu nous a promis. Mais il a promis plusieurs choses encore. On peut finir ici aujourd'hui, et on va finir bien sûr, mais je vais ajouter plusieurs promesses encore, qui sont rattachées à les 10 promesses, aux 10 promesses qu'on trouve dans Exode 20, mais qu'on le trouve ailleurs dans la Bible. Alors, je suis content que ça s'enregistre, parce qu'on va lire plusieurs promesses aujourd'hui. Bon, il y a des textes, je vous invite à lire chez vous, le psaume 73, que dit, oui, 73, versets 1 à 3, 15 à 17, je laisse tomber, je le dis pour que ça soit enregistré. Mais je veux commencer avec les autres promesses. Je vous invite, si vous allez assez vite, à prendre note au moins de la référence. Job 31, verset 4. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Je vous pose une question. Est-ce que vous avez compté vos pas de chez vous à l'église ce matin? Jésus l'a fait. Il a compté tous les pas que chacun de nous a donné, a fait, depuis chez nous jusqu'à l'église. C'est incroyable. Je ne me suis pas, je ne suis pas capable de compter tous les pas. Bon, on a l'iPhone aujourd'hui qui compte les pas et tout ça, mais pareillement, même ça n'est pas du tout fiable. Matthieu, chapitre 10, versets 29 à 31. Ne vendons pas une paire de moineaux, pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les chevaux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Bon, pour Dieu, Dieu pour moi, avec moi, c'est plus facile. Est-ce que vous avez compté les chevaux que vous avez sous votre tête ce matin? Plus facile. Est-ce que vous avez compté les chevaux qui sont restés sous le peigne ou la brosse à cheveux? Vous avez compté les chevaux qui sont restés là? Dieu, chaque jour, a un Excel avec les statistiques de combien de chevaux nous restent chaque jour. Il semble que je plaisante, mais c'est ça que la Bible dit. Dieu compte chaque un de nos chez vous. Jean chapitre 2, verset 25. En effet, ils n'avaient pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car ils connaissaient le fond de leur cœur. On parle de Jésus. Jésus connaissait déjà les gens avant qu'il le rencontrait personnellement. Il connaît qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Il connaît qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui. Il connaît qu'est-ce qui va nous arriver demain. Il connaît notre futur. Je me pose la question. Qu'est-ce que Jésus aura pensé le jour? Il a pensé le jour qu'il a rencontré Judas pour la première fois. Il connaissait déjà que c'est lui qui allait le vendre. Il connaissait déjà quel était le fin de Judas. Il savait qu'il allait se suicider. Mais il n'a rien dit. Et quand même, il a donné une opportunité. Jésus connaît tout dans ta vie. Tous les détails. Même les choses qui sont cachées. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Dieu est toujours à l'attente. Vous voyez, ce texte d'Hébreux que nous avons lu plusieurs fois accorde avec ce que nous venons de voir. C'est Dieu qui dit, je suis toujours là en attente. J'attends que tu m'appelles. Tu n'utiliseras jamais mon nom en vain. Je vais répondre. Tu n'auras besoin ni de voler, ni de te défendre, ni de blesser quelqu'un. Je suis toujours là pour t'aider, n'importe quoi, quelle soit la situation. Je suis là, bien sûr. Je souligne, au moment donné, au bon moment, parce que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Alors, c'est à nous de patienter. Mais Dieu est toujours là. Matthieu 21, verset 22. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. Bien sûr, il y a des choses à ajouter, mais le principe est là. Dieu est toujours là. Qu'est-ce que tu veux ? Jean 14, 13. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Le jour que je vous ai expliqué ici, cette semaine, que le premier intéressé, on vous a aidé à accomplir les promesses, c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui est jugé, pas seulement nous. On le retrouve ici, cette idée. Je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée. Nous retrouvons la même idée. C'est Dieu qui se vindique à lui-même et nous aidant, et nous sauvant. Jean 16, verset 24. Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Que le désir de Dieu. Voir que notre joie soit complète. Tu ne convoiterais jamais aucune chose. Parce que tu auras assez avec tout ça que tu as chez toi. Tu n'as besoin de rien plus. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Parlez-moi. Parlez avec moi. Je reste toujours à tes côtés. Je ne remets rien de dialoguer avec toi. En Jean chapitre 3, verset 22. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Alors, faire ce qui lui plaît jusqu'aujourd'hui, on a compris qu'il s'agisse d'obéir des commandements. Pas de tout. Faire ce qui lui plaît, c'est d'accepter ses promesses. Et je vous garantis que si vous acceptez ses promesses, jamais vous allez tuer, jamais vous allez mentir, jamais vous allez volé. Vous serez si heureux, heureuse, que vous ne jamais convoiterez rien. Vous voyez, l'obéissance, en telle que nous avons compris jusqu'aujourd'hui, c'est une conséquence de l'acceptation de ces 10 promesses. Et faillir devient pire que si ça reste qu'un commandement, parce que je me méfiais de Dieu, et ça m'attriste. Bon, c'est pire. Bref, Dieu connaît chacun de vos problèmes. Dieu connaît chacun de vos besoins. Dieu connaît chacune de vos angoisses. Dieu connaît chacun de vos péchés aussi. Mais il sait comme cela vous tormente de ne pas être capable de vaincre cette erreur. Cette erreur que nous retombons sur. Vous voyez, il y a quelque chose, chacun a son propre bataille, sa propre guerre. Mais Dieu le connaît. Dieu connaît vos pleurs secrets. Dieu attend que vous demandiez de l'aide pour vous aider. Et il est prêt à vous aider. Et ça le plaît. Et pas seulement ça le plaît, il est le premier intéressé, je viens de répéter pour 300e fois, il est le vrai intéressé de vous aider, parce que c'est lui qui se revendique à lui-même en vous aidant, parce que de cette façon, tout l'univers pourra voir quel est le résultat de l'application de son gouvernement. Parlez-lui aujourd'hui. Hébreux 4,14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un Dieu merveilleux. Ce n'est pas un Dieu qui se fâche, se gêne. Ce n'est pas un Dieu qui est là toujours avec des commandements pour ordonner les choses, pour dire il faut faire ça, ça, ça. C'est un Dieu qui, on peut dire, il se fonde dans des suppliques, en suppliant, s'il vous plaît, acceptez mes promesses. Parce qu'il est amoureux, profondément amoureux de chacun de vous. Ésaïe 49, 14 à 16 dit, « Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliera, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. » Je vous invite aujourd'hui à finir avec une petite prière individuelle. Restez comme vous êtes. Mais je vous invite à prier individuellement quelques instants, quelques secondes pour demander à Dieu que vous aide, que vous accorde son Saint-Esprit pour accepter ses promesses. Amen.